Nous avons laissé le sage échapper à la surveillance de l'espion Lévy, arrivant à la porte de Leviel et apprenant de ce dernier, qui était venu lui ouvrir, à quel genre d'occupation Miko et Soufflard se livraient dans la cave. « Tonnerre !» hurla le sage. « Pourvu que ce chafouin de Miko ne me tue pas, Soufflard !»« Sois donc calme, Soufflard est un vrai vénard, c'est Miko qui avalera le mauvais coup. » Il y a longtemps qu'ils sont là-dedans. 10 minutes à peine, et ma consigne est d'y descendre au bout d'une demi-heure. Ces phrases avaient été échangées sur le seuil de la porte. Entre vite, l'ancien, ajouta le vieil. La police nous remouche ferme, et il est malsain de causer en plein air. Allons rejoindre les autres qui attendent là-haut. Le sage suivit le vieil dans le couloir que ce pauvre écureuil avait trouvé si sombre, mais qui en ce moment était éclairé par une lanterne placée sur la dernière marche de l'escalier conduisant à l'étage supérieur. Le sage, qui connaissait les êtres, s'étonna de ce luminaire. « Oh, c'est donc comme ça dans le grand monde, on éclaire les vestibules ?»« Non, j'ai préparé d'avance la lanterne pour descendre tout à l'heure dans la cave, chercher le corps. » Une vaste salle occupait tout le premier étage de cette bicoque, qui était un dédit des refuges où se cachait la terrible bande que la police cherchait depuis si longtemps. L'ameublement était des plus primitifs. Des bancs et des tables encore chargés de bouteilles vides et d'assiettes sales. Tout un côté de la pièce était rempli par une large litière de paille, sur laquelle étaient couchés deux hommes, qui se levèrent à l'entrée de Leviel. Le reste de l'ignoble société se composait encore de 3 hommes, 4 femmes et un jeune garçon d'une douzaine d'années. L'entrée de le sage fit sensation. « Tiens, c'est le sage !»« Bonjour, frangin !» s'écria une des femmes. « Bonjour, mon oncle !» glapit le gamin. « Oh, c'est toi, Boucheron !» fit le sage en pinçant l'oreille de son neveu. « Es-tu toujours travailleur ?» me demanda la vieille. Par la vieille, l'enfant désignait sa mère, affreux type de la marchande à la toilette de bas étage, celle qui, à son entrée, avait appelé le sage son frère. Cette femme, qui joue un rôle important dans le drame que nous avons entrepris de conter, mérite quelques lignes particulières. Jeanne le Sage, veuve Volard, était une des plus utiles agentes de la bande. Tantôt porteuse de pain, tantôt femme de ménage ou revendeuse à la toilette, elle pénétrait dans les maisons, étudiait les habitudes et le logis de ses pratiques, prenait l'empreinte des serrures et préparait les vols. En un mot, elle était l'éclaireuse de la bande. Ce n'était pas la seule industrie de cette mégère. Elle y joignait encore la profession de vendeuse d'enfants. Sa clientèle était surtout composée de ces mendiantes des rues qui font de leur prétendue maternité un moyen d'exciter la charité des passants. La veuve Volard n'aurait sans doute pu fournir aux nombreuses demandes des pratiques sans l'adresse avec laquelle son fils, l'aimable Mouchon, savait faire le marché. Cette expression sera suffisamment expliquée par la réponse faite à le sage, demandant si son neveu était toujours travailleur. « Oh oui, il est travailleur, on peut bien dire qu'il fait la gloire de sa pauvre mère. Depuis 15 jours, il en est à son 3e enfant volé. » Et tout à coup, elle se mit à rire. « Ah, j'en ris encore, quand je pense comme il a été futé pour le dernier poupard. » Je vois toujours le grand imbécile de Larbin là, qui traînait le môme au soleil dans sa petite voiture sur la route de Saint-Denis. Par un bonheur du ciel, en montant le faubourg, mon Alfred avait décroché une paire de souliers à l'aventure d'un gnaf. Oh, savez-vous la drôle d'idée qu'il a eue, ce bijou ? Non, on me raconte toujours. Mais nous avions dépassé Larbin et sa bouette. Et voilà mon Alfred qui jette un de ses souliers au milieu de la route, et nous filons. De l'arbre arrive et voit le soulier. Tout neuf, c'était tentant. Mais c'était un saint difficile. Monsieur aurait voulu avoir la paire. Et il se met à tourner, à retourner la tête pour voir si l'autre n'est pas dans les environs. Enfin, il se décide à abandonner le soulier et à continuer sa route. Il aurait dû le prendre pour en faire cadeau à un invalide manchot d'une bonne jambe, dit un auditeur. Bref, il le laisse. 200 mètres plus loin, il rencontre le second soulier que mon Alfred avait mis sur son chemin. Ça lui faisait la paire. Alors, voilà mon bonhomme, après l'avoir ramassé, qui range sa petite voiture sur le bas-côté de la route et qui prend sa course pour aller rechercher le premier soulier. Et quand il est revenu, son petit était effarouché. J'en ai fait 75 francs et le soir j'ai payé les funambules à Alfred. Oh oui, j'en suis fier de mon Alfred. Allez, viens embrasser ta mère. Zut, oh, j'aime mieux embrasser la Sophie, répliqua le précoce galopin. La Sophie, dite la Bourricaude, était une des trois autres femmes qui faisaient partie de la bande de voleurs. Après ces épanchements de famille, le sage vint serrer la main aux cinq hommes qu'il avait laissés d'abord écouter le récit des exploits de son neveu. Nous citerons simplement le nom de ces hommes, que le procès fera plus tard mieux connaître, tous hardis coquins bien dignes d'aller de pair avec le sage. C'était Bicherel, Champenois, Marchal et Calmel, dit le pendu, car en Angleterre où il avait voyagé, il avait si bien mérité de la justice anglaise qu'elle l'avait trouvé bon à accrocher au bout d'une corde et il avait été exécuté. Miraculeusement ressuscité, le bandit n'avait été nullement corrigé par cette terrible épreuve. Ancien pion de collège, le pendu était l'orateur et le secrétaire de la société. Quant au cinquième homme, ce n'était pas la première fois de la journée qu'il se rencontrait avec le sage, car ce dernier l'aborda par un « Merci, le meunier, à charge de revanche. Ah, tu t'es donc débarrassé de ton second mouchard ?» demanda celui qui venait d'être appelé le meunier. « Pas assez malin pour moi. » Crois-tu que nous avons assez bien joué notre rôle, hein, Aliette et moi? Oh, la comédie a été bonne! On l'a reconnu, le meunier était l'ouvrier menuisier que nous avons vu remplir le personnage du poursuivant dans la scène du cabaret, qui avait trompé l'écureuil et mis le sage sur ses gardes. Ah, ça! Demanda le sage. Mais comment êtes-vous tombé si à pic? Ben voilà, je répare le plancher d'un bourgeois chez lequel j'ai un bon coup à faire. J'en ai parlé à Aliette qui a voulu voir par elle-même. J'avais prévenu ce matin le bourgeois que je ne ferais qu'une demi-journée parce que ma sœur viendrait me chercher pour affaire de famille. Et comme mon homme a vu Aliette, il est devenu un tison. Oh, que c'est beau ici! S'écriait Aliette. L'autre ne s'est pas fait de dire deux fois pour lui proposer de visiter son bazar. Et d'une chambre à l'autre, il proposait dîner, spectacle, bijoux, enfin tout le tremblement. Mais plus il devenait galant, plus Aliette le lui faisait à l'ingénuité. Elle était tellement émue qu'elle s'appuyait de la main sur tous les meubles, juste à l'endroit de la serrure. Quand elle eut fini de prendre l'empreinte des serrures avec la cire qu'elle avait dans la paume de la main, elle arriva à me chercher dans la pièce où je ramassais mes outils. Le bourgeois lui avait arraché la promesse qu'elle reviendrait. Pour ce qui est de ça, Aliette reviendra, mais je doute que le bourgeois soit chez lui ce jour-là. Nous en tournions par le quai quand Aliette t'a vu de loin en compagnie, et comme elle connaît toute la Sainte-Rousse, elle m'a dit. Le sage barbote en pleine police, sans s'en douter, il faut le tirer du pétrin. Et aussitôt, elle a inventé son boniment de la jeune fille poursuivie et persécutée. Et qu'est devenue Aliette? Oh, j'en sais rien, j'étais parti en avant. Hé, vous autres, cria la veuve Volard, la demi-heure fixée par les combattants est écoulée. Les hommes se levèrent aussitôt. Tout à coup, ils restèrent immobiles. Un vacarme de coups retentissants, mêlé de jurons étouffés, éclatait à l'étage inférieur. Une minute s'écoula, pendant lesquelles les bandits écoutèrent en silence le fracas qui retentissait en bas. « On dirait que c'est pas à la porte de la rue, » souffla le sage. « Bon, c'est plutôt à celle de la cave, » dit le vieil. À ce moment, les jurons recommencèrent de plus belle. « Mais c'est la voix de Soufflard, » dit la veuve Volard. Le moucheron sortit doucement sur le palier et reparut aussitôt. « Rentrez votre taft, mes gros pères, » cria-t-il. « C'est bien Soufflard qui fait tout ce boucan-là. » Ils s'élancèrent dans l'escalier pour gagner la porte de la cave. La lanterne était toujours à sa place. « C'est singulier, » dit le vieil. « La porte est fermée à bord et j'avais seulement poussé les battants. » Il fit jouer la ferrure, et par l'ouverture béante s'élança un homme écumant de rage et le couteau au poing. C'était Soufflard. « Mais où est le lâche » hurla-t-il. « Qui ça ?»« Ben, Miko, mille tonnerres. Ben, tu l'as donc pas tué ?»« Ben, pendant que je le cherchais dans l'obscurité, le chien a profité de ce que vous n'aviez pas verrouillé la porte pour remonter l'escalier et s'enfuir après m'avoir enfermé. »« Mais nous n'avons pas vu Miko. Alors il a quitté la maison pour aller nous dénoncer. » Bon, il ne peut pas encore être bien loin, poursuivons-le, dit le sage. Le pendu et le champenois ouvrirent la porte de la rue à la hâte, mais au lieu de s'élancer, ils reculèrent. Ils se trouvaient en présence de la belle Aliette qui, au même moment, allait entrer dans la maison. Elle portait un paquet sous le bras. La vue de Soufflard, le couteau en main et l'air troublé des autres, lui révéla tout à coup un événement grave. « Qu'y a-t-il donc, Victor, et pourquoi ce couteau ?» demanda-t-elle de sa voix douce à son amant. « Rien, mon enfant, rien !»« Je veux le savoir, » dit-elle d'un ton sec. Un seul être avait su dompter la bête féroce qu'on appelait Soufflard, c'était Aliette. Il ne put résister à l'ordre donné. « Eh bien, Aliette, apprends que depuis longtemps, Miko, furieux de ce que tu me préférais, me fatiguait avec ses menaces de mort. Alors, il y a une heure, je lui ai proposé de régler notre querelle au couteau, et il a accepté. Alors, nous sommes descendus dans la cave. » À ce mot, Aliette bondit de surprise. « Dans la cave, dis-tu ? » « Ben oui. » « Et vous n'y avez rien vu ? » Bon, nous étions dans l'obscurité. Tous les bandits regardaient d'un air étonné la physionomie inquiète de la belle blonde. Continue, dit-elle à Soufflard. Celui-ci conta la lâcheté de Miko qui s'était enfui après l'avoir enfermé. Aliette secoua la tête. Erreur, Miko est en bas. Allons donc, à 7 heures, il est en train de nous dénoncer. Alerte fit encore un signe négatif. « Non, Miko ne dénoncera plus personne, et je vous répète qu'il doit être en bas. En fait, c'est facile à voir. Le vieil, donne-moi la lanterne. » Le vieil obéit. Suivie de tous, elle descendit l'escalier. Arrivée dans un angle de la cave, elle s'arrêta et baissa la lanterne. « Oh, j'en étais sûr, » dit-elle. Tous poussèrent un cri d'étonnement. Immobile et raidi, Miko était étendu par terre. « Bon, il se serait évanoui de peur, » dit le sage. Pour toute réponse, Aliette promena sa lumière sur la face de Miko. Les lèvres étaient bleues, la langue un peu sortie et une trace brune lui cerclait le cou. « Mais alors, qui donc s'est enfui ?» s'écria Soufflard. « Celui qui a étranglé Miko ? Mais quel est-il ? Mais un rail, trop curieux, que j'avais mis ici au frais. Oh, vous n'avez pas prévenu, parce que je pensais pas que vous descendriez dans la cave, juste pendant que j'allais chercher cela. Et tout en parlant, Aliette dépliait le paquet qu'elle avait sous le bras. Un sac ? S'écria le meunier surpris. Oui, un sac pour y enfermer ce soir mon rail, afin de le porter à la Seine quand vous l'auriez refroidi, ajouta la belle blonde avec cette même harmonieuse voix qui charmait tant l'amoureux l'écureuil. Soufflard restait en arrêt devant le corps du défunt Mico. Est-ce que tu le regrettes ? Demanda le sage. Il avait quelque chose de bon. Ben quoi donc ? Sardingote. Alors prends-la. Et en une minute, le vêtement fut retiré. Oh, je veux garder un souvenir de mon pauvre ami, dit le meunier en lui ôtant sa cravate. Le mouchard s'était aussi rapproché. Il a peut-être de quoi m'acheter un homme pour la conscription. L'enfant eut beau tâter tous les goussets et les poches, il ne récolta pas plus de 16 sous. Cette pauvreté étonna Soufflard, qui murmura « C'est bien singulier, Mico ne dépensait pas un sou de ses parts de vol. Il n'a rien sur lui. Il faudra que je trouve l'endroit où il cachait son argent. » Mico, qui, de son vivant, était exécré dans la bande, se trouva subitement, après sa mort, avoir tant d'amis qui voulaient conserver un souvenir de lui que son cadavre allait être complètement dépouillé sans Aliette qui s'écria tout à coup « Oh les pattes, mes gars! Croyez-vous donc que le rail qui a refroidi Mico se soit enfui de la cave pour chercher ses puces? Ah, dans une heure, il sera ici avec toute sa séquelle. Il fera trop chaud pour tous. Allez en avant, les baluchons, et des talons !» Le péril était imminent. En 10 minutes, les paquets furent prêts et on abandonna la masure, dont tout le mobilier ne valait pas 20 francs. Aliette avait dit vrai, car une heure plus tard, l'écureuil arrivait. Seulement, il connaissait trop les habitudes des voleurs pour ignorer que ceux-ci ne l'attendraient pas. Il avait dédaigné un renfort inutile et ne s'était fait accompagner que du seul Lévi, tous deux bien armés et chacun impatient de venger l'échec particulier qu'il avait subi. Ainsi que l'avait prévu l'écureuil, la masure paraissait être déserte. Lévi croche à la porte et les deux agents entrèrent. Pièce par pièce, ils firent leur perquisition partout, sans trouver autre chose que la litière de paille, la table et les bancs. Disons-le, malgré ce que, dans le caveau, il avait appris par les combattants sur le monstrueux passé d'Aliette, malgré la façon dont il en avait été traité, le policier songeait à cette belle créature dont la beauté et la voix l'avaient enivré, et il avait espéré trouver là quelques souvenirs de celle dont la pensée le mordait toujours au cœur. Pendant que Lévi visitait les mansardes, le pensif l'écureuil redescendit l'escalier. La porte de la rue, grande ouverte, éclairait maintenant le sombre couloir, et l'agent vit un point lumineux qui piquetait le sol. À coup sûr, un objet quelconque, à face polie, devait ainsi réfléchir la lumière. L'écureuil le ramassa. C'était un médaillon. Une face en verre lui laissa voir les cheveux blonds qui s'y trouvaient enfermés, et sur l'autre face, en or plein, il vit graver les deux lettres E.A. entrelacées. Sans savoir pourquoi, l'écureuil eut la conviction qu'il avait trouvé un bijou appartenant à Aliette, un souvenir qui devait lui être cher et lui rappeler un des rares moments purs de sa sinistre existence. Il la vit d'avance, revenant dans la masure pour y chercher à genoux, coin par coin, ce médaillon perdu. Il se persuada qu'une sincère reconnaissance récompenserait celui qui lui rendrait le bijou regretté. Alors l'écureuil, sans bien se rendre compte de ce qu'il faisait, tira son couteau et dans le plâtre du mur du couloir, il grava ces deux mots « Médaillon trouvé ». Il fit des sept à peine quand l'escalier résonna sous les pieds de Lévi, qui venait rejoindre son chef. Il avait apporté une lanterne sourde qu'il alluma et les deux policiers descendirent dans la cave qu'il leur restait seul à visiter. Le corps, en partie dépouillé, gisait sur le sol. « Lévi, je te présente feu, monsieur Micot, » dit l'écureuil. « Il faut le transporter là-haut pour le procès-verbal et l'enquête de l'autorité. Bon, allez, prends-le par les pieds, moi je me charge de la tête. » Ils se baissèrent pour le saisir. L'écureuil s'arrêta subitement. « Tiens, il n'est pas mort !» s'écria-t-il. En effet, Micot venait de rouvrir les yeux. Sous la poigne de l'écureuil, l'asphyxie n'avait sans doute pas été complète, et le meunier, en volant à Micot la cravate qui lui serrait le cou, lui avait sauvé la vie. Les deux agents le soulevèrent sur son séant et l'adossèrent à la muraille. À mesure que Micot revenait à lui, il retrouvait le souvenir clair et précis du passé. Sa querelle avec Soufflard, la descente dans la cave, leurs mutuelles injures, il se rappelait tout jusqu'au moment où, la gorge prise dans un étau de fer, il avait été si vigoureusement étranglé qu'il n'avait pu pousser un seul cri. Et en même temps que la vie, il reprenait aussi sa haine pour Soufflard, haine doublée par la rage d'avoir été vaincu. Car, ignorant la présence de l'écureuil dans la cave pendant le combat, il était convaincu que c'était à Soufflard qu'il devait son étranglement. Seulement, une chose l'intriguait. Il ne comprenait pas comment il se trouvait maintenant en présence de deux étrangers, quand une heure avant, la maison était peuplée de tous ses complices. Micot était trop fin matois pour faire des questions. Il étira ses bras, esquissa un bâillement, et jouant l'homme satisfait. « Ah ! Fit-il, j'ai bien dormi, ce petit somme m'a guéri ma migraine. « Tu veux faire le malin, toi, » se dit l'écureuil, « nous allons rire. » L'écureuil, bien décidé à faire parler Micot, reprit à haute voix. « Tiens, bon monsieur, vous aviez donc la migraine ? Oh, il fait si chaud que je m'étais dit qu'en allant dormir une heure dans la cave, bien au frais, cela me remettrait. Mais comment se fait-il que la vieille dame ne vous ait pas prévenu ?»« Quelle vieille dame ? Ben, celle qui nous a loué la maison, la propriétaire. »« Ah oui, ma femme !» « Votre femme, mais alors, vous êtes donc mon propriétaire ?»« Ben, comme vous le dites, mon garçon. »« Ah, elle est ronde en affaire, votre dame. »« Figurez-vous que je m'en allais, le nez en l'air, cherchant les écriteaux. »« Elle était sur le pas de la porte, et en me voyant, elle a deviné que je cherchais à louer une maison. »« Ah, nous n'avons pas été longs à conclure. » « C'est sans doute la veuve Volard qui aura joué le tour à cet imbécile, » se dit Micot. Et comme il était anxieux de savoir ce qu'étaient devenus ses complices, il ajouta à haute voix, « Oh ça, mais que sont devenus les autres ?»« Quels autres ?»« Mes précédents locataires. »« Ah oui, les riches anglais. »« Mais comment savez-vous qu'ils étaient de riches anglais ?» Ah, c'est votre dame qui me l'a dit. Elle m'a conté que leur ambassadeur était venu leur dire qu'on les demandait tout de suite en Angleterre. Ils n'ont eu que le temps de payer et de partir. Mais on n'est pas plus bête que ce garçon-là, pensait Micot, qui s'amusait fort dans son rôle. Alors c'est alors que votre dame m'a loué au moment où je passais, cherchant un local pour y installer mes dépôts de fromage. Miko prit un air mécontent. Bah, dit-il, oh, je m'étais toujours bien promis de jamais louer un marchand de fromage. Mais enfin, soit, puisque ma femme vous a donné parole, je n'en viens pas là-dessus. Donc, continua l'écureuil, c'est en descendant avec mon premier commis dans cette cave, pour voir si elle n'était pas trop chaude pour mes fromages, que je vous ai trouvé dormant. Ah oui, pour ma migraine. Une fière migraine, en vous. Ouais, vous faisiez rudement tirer la langue. Oh, c'est que ma cravate me gênait un peu. Mais, mon cher propriétaire, je vous ferai remarquer que vous n'avez aucune espèce de cravate. Jusqu'à ce moment, Miko, absorbé par l'unique désir de savoir ce que ses complices étaient devenus, n'avait pas remarqué ce que son habillement offrait d'incomplet. L'observation de l'écureuil sur sa cravate appela son attention. Alors il vit qu'il se trouvait aussi en manche de chemise. En un instant, il fut dressé sur ses pieds, et pâle, égaré, il s'écria d'une voix coupée par la plus poignante anxiété, « Mais ma redingote ! Où est ma redingote ? Ah, nous ne l'avons pas vue. Mais les misérables me l'ont volée ! Quel misérable, les riches anglais ? » Cette question rappela Miko à lui-même. Le sang-froid lui revint, et malgré l'émotion violente qu'il éprouvait, plus tard nous en dirons la cause, il eut la force de sourire. « Oh, suis-je fou ? » dit-il. « Oh oui, j'oublie que j'ai placé ma redingote sur un fauteuil de mon salon pour que ma femme lui en couse un bouton. Oh, je vais aller le reprendre. » Il prit un ton protecteur. « Alors, je vous laisse, mon brave garçon. Je compte que vous serez un locataire bien exact, car je vous avoue que j'ai la manie d'aimer à être payé exactement. À part cela, d'où à vivre ?» Et Miko se dirigea vers l'escalier. Il lui tardait de rejoindre la bande. « Pardon, mon cher propriétaire, » fit l'écureuil. Miko se retourna. Ben, je vous vois si peu habillé pour sortir dans la rue, poursuivit l'écureuil, que si j'osais. Ben, osez, mon cher locataire, ben, je vous offrirai quelque chose pour compléter votre toilette. Miko crut qu'il allait lui donner son paletot. Que voulez-vous m'offrir ? Ben, tenez, ceci. Miko sauta de terreur à cette vue. L'écureuil lui tendait une paire de menottes. Le bandit voulut résister, mais les deux agents en eurent beau jeu et l'attachèrent en un instant. « Là, fit l'écureuil, maintenant que voilà un peu vêtu, causons en ami, mon cher Miko. Ne m'appelle pas Miko, entends-tu, mauvais mouchard ? » hurla le misérable furieux. « Ah non, ce n'est pas gentil. Je vous ai laissé faire à votre aise le propriétaire, et vous boudez maintenant que c'est à mon tour de rire. » Miko ne trouvait plus qu'il n'y avait pas aussi bête que ce garçon. Il fit qu'il fallait jouer serré, et il reprit son calme. « Mais pourquoi m'arrêter ? On n'a rien à me reprocher ? » C'est ce que je disais ce matin à mon chef quand il m'a signé l'ordre, mais il m'a parlé de je ne sais quelle affaire de la rue des abattoirs, 21 000 francs, d'un seul coup de filet, reprit l'écureuil en répétant textuellement tout ce qu'il se rappelait avoir entendu au moment du duel manqué. Mais c'est pas vrai ? Oh, il y a aussi un peintre dévalisé dans la rue des Boulangers et un général volé pendant la nuit à Neuilly. Bon, songe ! Oh, j'en suis persuadé, mais on ne peut empêcher les mauvaises langues de jacasser. Ce sont elles aussi qui racontent le vol de la rue Racine. Oh, beaucoup, ma foi. On voit que Maître l'écureuil avait bonne mémoire. Ignorant que c'était de lui-même que l'agent avait appris ces renseignements, Miko, en le reconnaissant si bien instruit, crut avoir été trahi par un complice, et cessa de nier. « Mais quelle est la crapule qui m'a dénoncé ?» demanda-t-il. Oh, crapule, comme vous traitez mal votre meilleur ami. Miko ne pouvait comprendre la plaisanterie. Mon ami, lui, alors donc, je lui mangerais plutôt la figure, car j'en suis certain, hein. J'ai été trahi par cette canaille de soufflard. L'écureuil guettait ce nom de soufflard. On se le rappelle, il n'avait pas été prononcé une seule fois dans le duel. Le policier avait bien entendu parler l'inconnu de son domicile de la rue de Seine, mais il n'avait pas pu savoir comment il s'appelait. En entendant le nom de Soufflard, l'écureuil prit le ton indifférent. Soufflard, fit-il, ah oui, celui qui vous a soufflé la belle Aliette. L'infâme gredin. Oh, la donzelle paraît beaucoup l'aimer. Miko écumait de rage et de jalousie. L'écureuil continua d'appuyer sur la corde sensible de son prisonnier. Oh, c'est un beau couple, car il est joli garçon, ce soufflard. Oh, je les ai vus un jour, on aurait dit deux tourtereaux. Ils entraient à je ne sais quel numéro de la rue de Seine. Ben, au numéro 21, lâcha involontairement Miko, égaré par la jalousie. Oh, ça, mon cher Miko, poursuivit l'écureuil, qui venait de pincer le numéro au vol. Pourriez-vous me dire comment, possédant une aussi ravissante maîtresse, vous vous êtes laissé enlever par Soufflard? Il est vrai qu'il est plus bel homme que vous. Miko secouait ses menottes avec rage. Être pris, hurlait-il, quand je ne songeais qu'à me venger. Comment, vous haïssiez donc bien votre ami Soufflard? À mort! Tant que ça? Mais quitte à y monter moi-même, je le conduirai à la guillotine. Oh, oh, fit l'écureuil, si vous avez de si belles dispositions, nous sommes bien près de nous entendre tous les deux. Et après un court instant de silence, durant lequel on put entendre un soupir d'espoir poussé par le bandit, l'écureuil ajouta. Mon cher monsieur Miko, j'ai une jolie petite proposition à vous faire. En quittant la bicoque du Gros Caillou, la bande s'était divisée par deux et par trois, et rendez-vous avait été assigné pour le soir au Franc-Roulier, ignoble auberge tenue à la barrière de Fontainebleau par le principal receleur de la troupe. Aliette, au bras de Soufflard, se dirigea vers l'école militaire. 20 pas en avant marchaient Champenois, le meunier et Calmel le pendu. 20 pas en arrière suivaient le vieil et le sage. Le bouchereau Alfred avait jugé bon de ne pas accompagner sa tendre mère qui longeait les quais et seul il suivait de loin la route d'Aliette, cherchant sur son chemin quelques chiens volés. Les trois groupes atteignirent le champ de Mars. Au milieu de cette vaste plaine où ne pouvait les écouter aucune oreille indiscrète, on se réunit. Il fallait tenir conseil. Le cas était pressant puisque la police avait enfin découvert la piste si longtemps cachée. Voyons, dit Aliette à Soufflard, rappelle-toi bien si dans cette maudite cave où le roux s'écoutait, Miko ou toi, vous n'avez pas bavardé. Oh, malheureusement, oui. Miko a rappelé plusieurs vols. Qui de nous a été compromis? Miko a cité le meunier et le vielle. La canaille! S'écrièrent ces deux messieurs. Comptez donc sur des amis. Maudit nom ne signifie rien tant qu'on n'a pas pris ceux qui les portent, répliqua la belle blonde. Le plus important est de bien cacher nos traces et nos refuges à ce maudit mouchard. Ah, voilà que je voudrais bien tenir dans un petit coin après minuit. Il n'aurait pas besoin de songer à l'avenir, dit le sage. Soyez tranquille, je m'en charge, fit Aliette dont l'œil s'éclaira d'une lueur sinistre. Ce regard était sans doute connu de ses compagnons, car le vieil souffla aussitôt à le sage. Bon, son compte est bon, Aliette regarde rouge. je ne donnerai pas 5 sous de la peau du rail. » Aliette interrogea de nouveau son amant. « Cherche à te souvenir si aucune adresse n'a été donnée ou la police puisse plus tard nous tordre une souricière. » Soufflard fouilla sa mémoire. « Ben oui, j'ai moi-même parlé de la rue de Seine. Ben nous n'y remettrons plus les pieds. » « Et notre mobilier ?» demanda Soufflard. « Mais il faudrait pouvoir déménager à l'instar même, et pour enlever les meubles, on doit payer le terme au concierge, qui sans argent ne laisserait rien sortir. Quelle somme avez-vous ?» Les compagnons se fouillèrent. Ils purent à peine réunir 20 francs. Le moucheron Alfred tendit ses 16 sous. « Voilà mon héritage de Mico !» Devant cette pénurie d'argent, il fallait donc se résigner. « Allons, fit Aliette, c'est un mobilier perdu. » Le moucheron se gratta le nez en riant. « Qu'as-tu à rire ?» demanda Soufflard. « Je me demande où vous avez vu qu'il fallait payer son terme pour déménager le bazar. » « Et le concierge, morveux ? Mais de quoi, le concierge ? Qu'est-ce qu'il peut avoir à faire là-dedans ? » fit le mouchon de ce ton traînant du voyou parisien. « Il m'empêchera de sortir les meubles. Lui, alors donc, je vous parie à chaussons aux pommes, qui soufflera pas le demi-quart d'un mot ?» Les voleurs se regardèrent, étonnés de l'assurance d'Alfred. « Parie-t-on le chausson ?» demanda le mioche. « Bah, c'est tenu, dit Aliette. Alors, qu'on me suive et qu'on m'obéisse. » Un quart d'heure après, on atteignait la maison de la rue de Seine. « Voilà la marche de la cérémonie, dit le moucheron. Aliette et Soufflard vont entrer chez eux comme deux bourgeois tranquilles. Et puis, ils attendront là-haut les camarades en faisant des paquets et en fermant bien les meubles. Allez, partez !» Aliette et Soufflard disparurent sous la voûte de la maison. Le vieil, le sage, le meunier, Champenois et le pendu restèrent à la disposition du gamin. Alors il expliqua son idée aux 5 hommes qui partirent d'un éclat de rire formidable. « Comme il faut pas que le concierge vous voie grimper dans la maison, je me charge de l'occuper. Arrivez dans 1 minute et coulez-vous en douceur dans l'escalier. » Le gamin partit à son tour. À 2 pas de la loge du concierge, il se frotta vigoureusement un œil et sauta dans la loge. Le portier était en train de cirer des bottes. « Oh là là !» fit l'enfant, tout pleurant et se frottant l'œil. « Hi, hi, hi. Qu'as-tu, mon petit bonhomme ?»« Oh, je passais sous les fenêtres, hi, oh, on a secoué un tapis, il m'a entré quelque chose dans l'œil. »« Alors, c'est rien, viens ici que je te souffle dans l'œil. Mais tiens-toi donc en place, galopin !» L'enfant manœuvra si bien que le concierge tournait le dos à la porte quand il souffla dans l'œil d'Alfred. Les 5 hommes venaient de passer. « Ah !» fit le boucheron, riant et pleurant à la fois. « Ça va mieux, c'est parti. »« Tu vois bien que c'était rien. Allez, maintenant, file, mon enfant !» ajouta le portier en lui donnant une petite tape amicale. « Merci, mon bon monsieur !» cria le charmant Alfred en s'enfuyant. Pendant que le boucheron occupait le brave homme, les 5 hommes avaient gagné la chambre où les attendaient Aliette et Soufflard. L'un prit le lit, l'autre le secrétaire, le troisième la commode, les autres le restant du mobilier, et ainsi chargés, ils descendirent l'escalier à reculons et dans le plus profond silence. 5 minutes après, le portier sautait de surprise en entendant la dispute qui éclatait tout à coup dans l'escalier. Arrivés, toujours à reculons, à proximité de la loge, les 5 hommes commençaient la scène commandée par le moucheron. le plus éloigné, criait à ses camarades: hey, « Hé, sacrebleu, c'est pas ici que nous avons affaire !»« Mais si, je te dis que c'est ici, je reconnais l'escalier !» Le portier s'élança dans le vestibule, et voyant de dos dans l'escalier tous ces hommes chargés, « Mais dites-moi, mes braves gens, où montez-vous donc ces meubles ? N'est-ce pas, monsieur, que c'est ici le numéro 28 ?»« Mais non, c'est le 17. »« Oh, alors, mille pardons, nous nous étions trompés de numéro. » Et toujours à reculons, ils passèrent devant la loge où s'était enfermé le concierge pour ne pas être écrasé dans l'étroit vestibule entre un meuble et la muraille. « Oh, c'est sans doute pendant que je soufflais dans l'œil du petit polisson que ces pauvres commissionnaires auront passé avec leur meuble. Cela leur fera double peine, après tout. Tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à pas se tromper de numéro. » 5 minutes après, Aliette et Soufflard, ainsi déménagés, passaient devant le pipelet qui ne soutenait guère qu'ils voyaient ses locataires pour la dernière fois. À la nuit tombante, des hommes à allure discrète vinrent rôder devant la porte. C'était la police qui, sur l'avis de l'écureuil, mettait la maison en surveillance. Ainsi que nous l'avons annoncé, l'auberge du Franc-Roulier, où la bande de la belle Aliette devait se réunir le soir, était tenue par le fourgas de la troupe, le receleur. La destinée de l'homme qui travaille sans capitaux, a-t-on dit, quel que soit d'ailleurs le métier qu'il exerce, est d'être continuellement exploité par ceux qu'il possède. Les voleurs subissent la loi commune. Ils volent tout le monde, mais à leur tour, ils sont volés par les fourgas, qui ne craignent pas de leur payer 100 francs, ce qui vaut 4 fois autant. Aussi les fourgas habiles font-ils promptement fortune, tandis que ceux aux dépens desquels ils s'enrichissent vont pourrir dans les prisons et les bagnes. Malheureusement pour Louis Rigobin, le propriétaire du Franc-Roulier, l'envie d'aller trop vite l'avait jeté dans la voie d'un désastreux cumul. À son titre de fourgas, il joignait celui de père des voleurs. Ceux que le bagne rendait à Paris et qui, sans ressources, avaient besoin d'un certain temps pour se refaire la main, ceux qu'une active poursuite, après un bon coup fait, obligeait de se cacher, ou bien ceux, soit qu'ils ne fussent pas en veine, soit qu'ils eussent un poupard à nourrir, se trouvaient momentanément sans argent. Tous, disons-nous, étaient cachés et nourris à crédit au Franc-Roulier. Il en résultait que ce qui arrivait par le vol s'en allait par le crédit. Rigobin voyait souvent la prison lui confisquer un débiteur qu'il avait longtemps soutenu dans l'espoir d'un important recel. Une condamnation en perpétuité équivalente à une banqueroute soldait le compte que le confiant aubergiste avait cru pouvoir ouvrir à ce garçon qui lui paraissait plein d'avenir. Rigobin aurait bien voulu liquider sa situation, mais, outre que les fonds en circulation étaient d'une rentrée difficile, il avait à craindre qu'un débiteur trop harcelé se débarrassât de lui par une dénonciation qui, au lieu de la jolie retraite en Touraine que le receleur rêvait pour sa vieillesse, pouvait l'envoyer finir ses jours à Toulon ou à Rochefort. Il ne faudrait pourtant pas croire que Rigobin n'eut jamais de moment d'impatience. Il lui arrivait quelquefois de vouloir se soustraire à ce crédit forcé qu'il était obligé de faire. Il se trouvait précisément dans un de ces moments de révolte quand se présenta l'avant-garde de la troupe d'Aliette qui, débusquée du gros caillou, venait chercher un refuge au Franc-Roulier. Enjolé par la belle blonde, Rigobin avait accordé une ardoise à chacun des bandits. Mais depuis longtemps, sans doute, par suite de l'emprisonnement de ses deux chefs, Soufflard et le Sage, la troupe avait peu travaillé. En revanche, elle avait largement bu et mangé, de sorte que le chiffre de la dette avait atteint un assez joli total pour que le créancier songeât à être remboursé par le produit de quelque beau vol. Mais ces feignants-là boiront sans travailler jusqu'au jugement dernier, si je ne secoue pas leur paresse, s'était dit le digne receleur. Telles étaient les dispositions hostiles de l'aubergiste, quand se présenta Liette, suivie de Soufflard, le sage, le meunier, Champenois, le pendu et le charmant Alfred, qui, n'ayant pu trouver un chien volé sur sa route, avait décroché un gigot à l'étal d'un boucher. « Du zèle, Rigobin !» cria la blonde. « Nous mourrons de faim, vieux fourgard. Serre-nous une belle ripaille au plus vite !» Et elle passa, sans faire attention à l'air renfrogné du cabaretier. « Tenez, gros père, j'ai apporté notre dessert. Vous nous le servirez avec un peu de thé !» ajouta le moucheron en jetant sur le comptoir d'étain son gigot, qui pouvait peser 6 livres. Au fond d'une seconde cour, loin de la rue et des regards furieux, l'auberge possédait une salle bien connue de la troupe d'Aliette. C'est là que les garçons, 2 exténus de Poissy, préparèrent la table. « Le patron va vous apporter lui-même le premier plat, » dit l'un d'eux en se retirant après le couvert mis. « À table !» cria le vieil. Tous prirent place sur les bancs. Après une pareille journée d'émotion, la faim et surtout la soif faisaient rage chez les convives. « Tiens !» dit Soufflard, « ils ont oublié de nous donner du vin !» En effet, 2 sales carafes d'eau se dressaient sur la table. « Moi, je ne veux pas boire d'eau !» cria le bouchon. « On dit que ça fait venir des sangsues dans le ventre !» À ce moment, Rigobin parut à la porte. Il portait gravement un plat couvert qu'il posa devant Aliette, placé au centre de la table. La belle enleva le couvercle. Une longue feuille de papier s'étendait au fond du plat. « C'est la note de ce qu'on me doit, » dit sèchement Rigobin. « L'œil est crevé, mes enfants, payez ou pas de fricot !» Cette exigence inattendue consterna la troupe. « Au moins, rends-moi le gigot !» cria le moucheron. « Je le garde en acompte, il est déduit sur la note, voyez plus tôt. » Et du doigt, Rigobin montra cette mention « Avoir un gigot de 6 livres, 12 sous. » C'était à peu près dans cette portion-là que l'honnête receleur achetait et payait à ses clients les objets volés. « Voyons, Rigobin, demanda le vieil, ne peux-tu pas attendre encore ? Mais tu sais bien que nous te paierons au premier jour. »« Oh non, voilà trop longtemps que j'attends ce premier jour. Vous l'enternez toujours en vous disant, « Papa Rigobin est bon là, non, ah, c'est assez. Non, je ne veux plus nourrir des paresseux. »« Allons, fourgard, » fit Aliette de sa plus douce voix, « un peu de patience. » Nous allons maintenant marcher de l'avant, car voici le sage et Soufflard, délivré depuis ce matin. Rigobin resta insensible au ton de prière de la femme. À propos, fit Soufflard, dis donc, Rigobin, ce matin, en quittant la prison, Delsève m'a chargé de lui donner de tes nouvelles et de lui faire savoir si tu es toujours gentil avec les camarades. Ce nom fit pâlir l'aubergiste. Bon, ce Delfèvre, en effet, savait sans doute assez long sur le fourgat pour que, si l'envie lui prenait de parler, sa dénonciation fit évanouir le beau rêve d'une retraite en Touraine que caressait le receleur. Il comprit la menace sérieuse qui se cachait dans la phrase de Soufflard. « Bon, si au moins vous aviez quelques jolis coups sur la planche, » dit-il d'un ton radouci. « Ben, nous en chercherons un. »« Ah oui, cherchez, toujours cherchez, quand il vous faudrait avoir. »« Ben, ceux que nous avons sont pas encore mûrs. » La veuve Volard avait écouté sans rien dire. Tout à coup, elle fit un signe pour réclamer le silence. « Ah, beaucoup, j'en connais un tout cuit, moi, Il y a qu'à le manger. Conte-nous cela. La veuve promena ses regards sur tous les convives. Oui, mais il faut que ceux qui s'en chargeront soient deux gaillards qui n'aient pas froid aux yeux, je vous en préviens. Un petit frisson courut autour de la table. Il y a donc un rude coup de collier à donner, la mère ? Demanda le meunier. Oh, mieux que ça, mon garçon. Quoi donc ? Ben, ça peut finir par la grande soulasse. Le sage et Soufflard échangèrent un regard. Ils s'étaient compris. Les deux bêtes féroces sentaient déjà le sang. Voyons, compte tout à trouvaille, demanda tranquillement Henriette. Non, non, mangeons d'abord, plus tard les affaires, répliqua la veuve. Eh bien, Rigobin, seras-tu toujours inébranlable? Bon, dame, non, du moment que vous venez raisonnable. Mais qu'est-ce que je voulais, moi, vous voir travailler? Je connais la volare, oh, c'est pas une petite folle qui vous dérangerait pour rien. J'ai confiance en elle et je consens à attendre. Allez, dans 5 minutes, vous serez servi. Et le brave aubergiste courut à sa cuisine. Un quart d'heure après, le souper faisait son apparition sur la table. Oui, s'écria Aliette, la volare nous dira la chose au dessert, entre la poire et le fromage, jusque-là, rigolons. « Bravo, rigolons !» cria-t-on en chœur. Ils rigolèrent si bien que 2 heures après, ils étaient à peu près ivres, sauf calmer le pendu qui pleurait. Ce bandit qui, à jeun, ne redoutait rien, avait l'ivresse triste, peureuse et débordant d'une douce morale. « Oui, mes frères, en vérité, je vous le dis, » répétait-il en secouant la tête, « nous glissons sur la pente du mal. »« Oh, tu m'embêtes !» criait le moucheron. « Va pleurer dans le verre de maman. Moi, j'aime le vin pur. »« Arrêtez-vous, arrêtez-vous !» répétait l'ivrogne. « Tout cela peut vous mener trop loin. Croyez-en un homme qui a déjà été pendu. » « Ah, une idée, fit le vieil. Et s'il nous contait comment il a été pendu en Angleterre ?»« Oh oui, ça doit être cocasse. »« Allons, Calmel, joue de la langue, mon bonhomme, et dis-nous, à quoi tu pensais quand tu avais la corde au cou ?»« Oui, oui !» cria la société. « Puisse mon histoire vous faire réfléchir, » dit gravement le scélérat, que le vin rendait repentant et sensible. Et il commença son récit. Il était 4 heures de l'après-midi, la permission de m'alarguer étant exprimée, le geôlier la fit sortir, et quand elle fut partie, il me sembla que j'avais fait la dernière action de ma vie. J'aurais souhaité de mourir à l'heure même, mais à mesure que le crépuscule arrivait, ma prison devenait plus froide et plus humide. La soirée était sombre et brumeuse, et je n'avais ni feu ni chandelle par cette soirée de janvier. Cancre d'anglais, ils lésinent pour leur pendu, fit le meunier. Dans mon cœur, ça fait ça sous la désolation de tout ce qui m'entourait. Et peu à peu, la pensée de ma largue, de ce qu'elle deviendrait, commença à céder devant le sentiment de ma propre situation. Ce fut la première fois que je compris l'arrêt que j'allais subir dans quelques heures. Une terreur horrible me gagna, comme si jusque-là, j'eusse pas su réellement que je devais mourir. Pas gaie, la situation, fit le vieil le nez dans son verre. J'avais rien mangé depuis 24 heures, et il y avait là de la nourriture que le geôlier m'avait envoyée de sa propre table. Mais quand je la regardais, je pensais aux animaux qu'on engraisse pour les tuer. Une sorte de bourdonnement sourd résonnait à mes oreilles, et quoi qu'il fût nuit close, des étincelles lumineuses passaient devant mes yeux. Et tout à coup, il me sembla que toute cette terreur était vaine, que je resterais pas là pour attendre la mort. Oh, je me levai d'un seul bond, je m'élançai aux grilles du cachot, et lui attachai d'une telle force que je les courbai. Une prostration subite suivit cet effort et je m'évanouis. Quand je revins à moi, j'entendis l'horloge du Saint-Sépulcre sonner 10 heures. Alors l'aumônier de la prison entra, il m'exhorta à ne plus songer au monde, à réconcilier mon âme avec le ciel, puis il partit. Je m'assis sur mon lit et je m'efforçais de me préparer à mon sort. Je me répétais que j'avais plus que peu d'heures à vivre, qu'au moins fallait-il mourir en homme. J'essayais alors de me rappeler ce que j'avais entendu dire sur la mort par la pendaison, que c'était que l'angoisse d'un moment, qu'elle causait peu de douleur, qu'elle tuait vite. Peu à peu, ma tête commença à s'égarer encore une fois. Je portais mes mains à ma gorge, où la serrais fortement comme pour essayer de la sensation d'étrangler. Ensuite, je tâtais mes bras aux endroits où la corde devait être attachée. Je la sentais passer, repasser, jusqu'à ce qu'elle fût nouée solidement. Mais la chose qui me faisait le plus d'horreur, c'était de sentir sur ma figure l'ignoble bonnet blanc qu'on abaisse sur le visage du condamné avant d'ouvrir la trappe. Oh, si j'avais pu éviter cela, le reste était moins horrible. Et au milieu de ces imaginations, un engourdissement général gagna petit à petit mes membres. Une stupeur pesante vint diminuer la souffrance causée par mes idées, quoique je continuasse à penser. L'horloge de l'église sonna minuit. J'avais le sentiment du son, mais il m'arrivait indistinctement, comme à travers plusieurs portes fermées. Peu à peu, je vis les objets qui erraient dans ma mémoire disparaître partiellement. Puis tout à fait, je m'endormis. Le bandit fit une pause. Ses auditeurs en profitèrent pour échanger des plaisanteries. Pendant cette interruption, Calmel le pendu se versa et dégusta lentement un grand verre d'eau-de-vie. Le bandit avait beau boire, il ne pouvait s'enivrer davantage. Seulement, il devenait plus triste et plus sombre. Ses complices l'écoutaient avec cette vive attention de gens qui se savent appeler d'un instant à l'autre à passer par de pareilles transes. Quant à Aliette et Soufflard, retirés dans un coin de la salle et les mains enlacées, ils parlaient d'amour. Ces deux êtres, souillés de crimes et peut-être à la veille de verser le sang, oubliez tout pour faire d'amoureux projets d'avenir. Calmel buta encore et continua. Je dormis jusqu'à l'heure qui devait précéder l'exécution. Il était 7 heures lorsqu'un grincement de la porte de mon cachot m'éveilla. J'entendis le bruit comme dans un rêve, quelques secondes avant d'être complètement réveillé, et ma première sensation ne fut que l'humeur d'un homme fatigué qu'on réveille en sursaut. J'étais là, je voulais dormir encore, je n'avais pas retrouvé le sentiment de la situation. Le geôlier entra, portant une petite lampe et suivi du directeur de la prison et de l'aumônier. Me levait la tête, un frisson semblable à un choc électrique, à un plongeon dans un bain de glace, me parcourut tout le corps. Un coup d'œil avait suffi pour tout me rappeler. Le sommeil s'était dissipé comme si je n'eus jamais dormi, comme si jamais plus je ne devais dormir. Le geôlier me fit lever et l'aumônier me demanda que je me joignisse à lui pour prier. Je me ramassai sur moi-même et je restai assis sur le bord du lit. Mes dents claquaient et mes genoux s'entrechoquaient en dépit de moi. Il ne faisait pas encore grand jour et, comme la porte du cachot restait ouverte, je voyais la petite cour pavée. L'air était épais et il tombait une pluie lente et continue. « Il est 7 heures et demie passées, me dit le geôlier en chef. me rassembler mes forces pour demander qu'on me laissât seul jusqu'au dernier moment. J'avais 30 minutes à vivre. Le prêtre voulut parler, je lui fis signe et il se retira. Lorsqu'ils furent partis, je restai à la même place, sur le lit. J'étais engourdi par le froid, ou probablement par le sommeil et par le grand air inaccoutumé qui avait pénétré dans ma prison. Je demeurais roulé, pour ainsi dire, sur moi-même, afin de me tenir plus chaud. Mon corps semblait un poids que je ne pouvais soulever. Le jour éclairait de plus en plus, quoique jaunâtre et terne, et la lumière se glissait par degrés dans mon cachot, me montrant les murs humides et le pavé noir. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer ces choses périles, quoi, que la mort m'attendit l'instant d'après. Pendant cette anxiété, j'entendis la cloche de la chapelle commencer à sonner l'heure, et je pensais que ce ne pouvait être encore que les 3/4 après 7 heures. L'horloge tinta les 3/4, elle tinta le 4e, puis elle sonna 8 heures, l'heure de ma mort. Mes souvenirs sont très précis jusque-là, mais pas à beaucoup près aussi distincts que ce qui suivit. Je me rappelle cependant très bien comment je sortis de mon cachot pour passer dans la grande salle. Deux hommes sombres et muets, vêtus de noir, me soutenaient. Je sais que j'essayais de me lever quand je vis entrer le geôlier chef avec ses hommes. Je ne pus pas. J'étais en plomb. Dans la grande salle étaient déjà deux malheureux qui devaient subir leur supplice avec moi. Ils avaient les mains liées derrière le dos et ils étaient assis sur un banc en attendant que je fusse prêt. Un vieillard à cheveux blancs lisait haut à l'un d'eux. Il vint à moi et me dit quelque chose, que nous devrions nous embrasser, à ce que je crois. La chose la plus difficile pour moi était de me retenir de tomber. Le cœur me manquait comme si le plancher se dérobait sous moi. Je ne pus que faire signe au vieillard à cheveux blancs de me laisser. Quelqu'un intervint et l'écarta de moi. On acheva de m'attacher les bras. J'entendis un officier dire à demi-voix à l'aumônier que tout était prêt. Et comme nous sortions, un homme noir porta un verre d'eau à mes lèvres, mais je ne pus pas l'avaler. Nous commençâmes à nous mettre en marche à travers les passages voûtés qui conduisent de la grande salle à la potence. J'entendis les coups pressés de la cloche et la voix grave de l'aumônier qui disait en marchant devant nous « Je suis la résurrection et la vie, a dit le Seigneur. » Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, vivra. C'était le service des morts, récité pour nous qui étions vivants. Je sentis tout à coup la transition brusque de ces passages souterrains, chose étouffée, à la plateforme de l'échafaud en plein air. La brise humide et froide a frappé mon visage. J'étais arrivé sous la corde fatale. On le voit tout encore aujourd'hui. L'horrible perspective est tout entière sous mes yeux. L'échafaud, la pluie, les figures de la multitude, le peuple grimpant sur les toits, la fumée qui se rabattait pesamment le long des cheminées, l'église du Saint-Sépulcre dont tintait la cloche, les charrettes remplies de femmes regardant de la cour de l'auberge en face. J'entends encore le murmure bas et rauque qui circula dans la foule quand nous parûmes. Jamais je ne vis tant d'objets à la fois assez distinctement qu'à ce coup d'œil, mais il fut court. À dater de ce moment, tout ce qui suivit fut nul pour moi. Les prières de l'aumônier, la tâche d'une fatale, le bonnet dont l'idée m'inspirait tant d'horreur, mon exécution ne m'en laissait aucun souvenir. Tout s'arrête à la vue de l'échafaud et de la rue. m'étais évanoui. Ce qui, pour moi, semble sûr immédiatement, poursuivit le conteur, est mon réveil d'un sommeil profond. Je me trouvais dans une chambre, sur un lit, près d'un homme qui, lorsque j'ouvris les yeux, me regardait attentivement. C'était un médecin qui avait acheté au bourreau mon corps pour le disséquer. Il paraît que le nœud avait été mal fait, et me trouvant un reste de chaleur, le docteur m'avait rappelé à la vie. À la fin de son récit, l'ancien pendu était arrivé au paroxysme de cette ivresse triste et prêcheuse qui lui était familière. Il se leva, la main tendue. « En vérité, mes frères, je vous le dis, quittez le sentier du mal. » Un hourra général lui coupa la parole. « Allons, voilà qu'il devient désagréable en société à présent. Qu'on le couche. Faites-lui avaler un bouchon, ça empêchera sa morale de sortir. » Calmel continua quand même. « Quittez la voie funeste, ou mal vous adviendra. Croyez-en un revenant sorti pour vous de la tombe. » « Ah bon, voilà qu'il pose au revenant. »« Est-ce qu'il y a des revenants ? Montrez-moi un, hein, cria Alfred, que je lui coupe les cheveux et... » Le gamin n'acheva pas sa phrase. La figure pâle, la bouche béante... Il s'arrêta en tournant vers la porte, des yeux agrandis par la peur. Tous les yeux suivirent la direction de son regard. Un cri de surprise sortit de chaque poitrine.